Chapitre 41. Yannes change de canal sur son talkie-walkie et informe toutes les unités que Parissa est en train d'arriver. Jonah, tu nous as adressé beaucoup d'avertissements, déclare Yannes en le regardant fixement. Je voudrais juste te dire que si ça foire, si nous sommes obligés d'intervenir, tu dois monter à l'étage. Dans le placard de la chambre, il y a une échelle qui mène au grenier d'où tu pourras sortir sur le toit. Sur l'écran, il voit Parissa approcher de la maison, chargée de sacs de provisions de chez Ika. Elle est vêtue d'un mince manteau noir, d'un hijab rose et de bottes en cuir à talons hauts. Elle ramasse quelques prospectus dans la boîte aux lettres, arrive devant la porte d'entrée, pose les sacs et déverrouille la serrure. « Il faut qu'on te colle le mouchard tout de suite, » dit Yannes. « Va dans l'autre chambre, je t'envoie Siv dès que je la trouve. » Jonah suit les instructions et trouve une jeune femme en col roulé noir assise devant la fenêtre donnant sur la rue. En l'entendant, elle se lève pour lui serrer la main. « Je m'appelle Jennifer. » « Je ne voulais pas te déranger, mais... »« Tu ne me déranges pas, » répond-elle immédiatement et elle éloigne quelques mèches de cheveux de sa joue. « On va me poser un microphone. » Jennifer porte une queue de cheval, un pantalon cargo noir et de grosses rangers, mais le casque, les lunettes de protection et le lourd gilet pare-balles sont posés sur le sol à côté de sa chaise. Jonah constate qu'elle a monté un fusil de précision sur un bipied solide. Une manivelle lui permet de déplacer en douceur le canon d'un côté à l'autre de la fenêtre. Trois magasins de rechange sont alignés sur une petite table à côté d'une bouteille de San Pellegrino et d'une boîte de munitions 7.62 Prick ouverte. Jonah voit par terre une table de coefficients balistiques tombée de la boîte, mais il se dit que ce n'est pas grave. Elle n'en aura pas besoin. L'arme possède une vitesse à la bouche de près de 1300 mètres par seconde, et ici, ils sont à moins de 60 mètres de la maison d'en face. Jonah enlève sa veste et la pose sur le lit, défait le holster d'épaule et commence à déboutonner sa chemise. Parissa se trouve dans la chambre à l'étage maintenant, dit Jennifer. Tu veux voir ? Il s'avance et regarde dans la lunette de visée, augmente la puissance de grossissement à 8 et voit Parissa enlever son hijab. Elle a une épaisse tresse noire qui lui arrive en bas du dos. Au milieu du réticule, il distingue nettement son visage, les petits pores du nez, la tache de naissance au-dessus d'un sourcil et le mince trait de colle qui déborde sur la tempe. Quand elle se rend dans la salle de bain, Jonah voit une porte ouverte sur un placard tapissé d'un papier peint jaune-marron au motif de médaillon. Ça doit être là que se trouve l'échelle pour accéder au grenier. Il redresse le dos et fixe la maison. Dans l'interstice entre les rideaux, Parissa apparaît comme une ombre derrière le verre granité de la fenêtre. Jonah vient juste d'enlever sa chemise quand la technicienne son du groupe d'investigation entre. Siv est une femme entre deux âges aux beaux yeux bleus. Ses cheveux blonds lui arrivent aux épaules. Son chemisier blanc se tend sur sa poitrine chaque fois qu'elle inspire. Le visage sérieux, elle observe Jonah qui se tient torse nu au milieu de la pièce. L'entraînement physique en prison a développé ses muscles. Le haut de son corps porte des marques de blessures, par balles comme par armes blanches. Elle tourne lentement autour de lui, tâte du bout des doigts une zone sous son omoplate droite et soulève un peu son bras. Jennifer les contemple, incapable de retenir un sourire. « Je vais te le placer juste sous le pectoral gauche, » finit par trancher Siv. Et elle ouvre un étui en plastique garni de mousse noire. « D'accord. » Les mains tremblantes, Siv fixe le microphone avec du ruban adhésif qu'elle s'efforce de bien lisser. « Mes mains sont un peu froides. » dit-elle d'une voix rauque. « Pas de souci. »« Je peux le faire à ta place ?» propose Jennifer. « J'ai les mains chaudes. » Siv fait semblant de ne pas l'entendre. Elle remet un bout d'adhésif avant de vérifier la connexion. Leurs voix s'entendent dans le haut-parleur du récepteur, mais la proximité avec l'émetteur crée un fort effet d'écho. « Je me rhabille ?» demande Jonah. Siv ne répond pas, et Jennifer réprime un gloussement. Jonah remercie la technicienne, enfile sa chemise, attache le holster d'épaule et remet sa veste. « Ce microphone est quasiment indétectable, » explique Siv, Et la portée est suffisante pour la maison, mais pas plus. Juste pour que tu le saches. Il vérifie la liaison une deuxième fois quand Janus arrive avec son ordinateur portable pour montrer les déplacements de Parissa à Juna. Elle descend dans la cuisine, se balade en soutien-gorge et pantalon de jogging brillant, mange des chips qu'elle pioche dans un sachet argenté. Juna inspecte son pistolet, emprunte le rouleau d'adhésif de Siv et entoure la partie basse de la crosse, comme il aime bien le faire. Il sort le chargeur, tire la culasse en arrière, examine le percuteur et son ressort, verrouille la sûreté, replace le chargeur et met une cartouche dans la chambre. J'y vais maintenant. En arrivant au rez-de-chaussée, il voit Gustave dans le vestibule sombre, le visage dans les mains, son fusil d'assaut pendant le long de sa hanche. « Qu'est-ce qui se passe ?» lui demande Juna. Gustave sursaute et baisse les mains d'un air gêné. Son visage, habituellement joyeux, est tendu et luisant de sueur. « J'ai un putain de mauvais pressentiment, » dit-il entre ses dents. « Il y a quelque chose qui me chiffonne. Toute la maison est peut-être piégée. »« Fais attention, c'est tout ce que je te demande, » répète Juna. Ingrid Holm, l'agent de la CEPO qui l'a guidé jusqu'à la maison à travers le bois, se tient prête devant la porte vitrée pour le reconduire à sa voiture, sans qu'on le voie depuis la rue.